Vous êtes sur RTL.
Et pas générique.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible. Heureuse de vous retrouver en ce lundi avec une équipe en pleine forme et pour une semaine riche qui se présente à nous. On interrogera d'ailleurs notre voyeurisme demain. On interrogera la langue française mercredi. Est-ce qu'on parle toujours bien français? Est-ce qu'on écrit toujours bien le français? Et puis on décryptera le mode opératoire de ceux que l'on appelle les pervers narcissiques et qui font tant de dégâts autour d'eux. Et ça, ce sera jeudi. Mais pour l'heure, et à un peu plus d'une semaine d'un retour progressif à la normale. Depuis un peu plus d'un an maintenant, le télétravail, les gestes barrières, les heures de sortie autorisées ont fait une entrée fracassante dans notre vie au détriment de notre vie sociale, culturelle et de divertissement. Nous avons donc eu à réinventer des repères et des habitudes en attendant que passe ce gros orage qui menace toujours. Mais une fois la crise sanitaire enfin derrière nous, notre quotidien va-t-il redevenir le même qu'avant? Allons-nous parvenir à recouvrer du jour au lendemain ce bon vieux temps où l'on s'embrassait, où l'on se touchait, on vibrait ensemble lors de grands événements, ce temps où l'on jouissait de notre si précieuse liberté? Y aura-t-il un avant et un après la Covid? La vie pourra-t-elle reprendre là où on l'a laissée en mars 2020? On va en parler avec nos invités, mais également avec nos témoins qui sont en ligne. Bonjour Valérie.
Merci de m'avoir prise.
Mais on est très heureux de pouvoir vous accueillir sur cette antenne. Merci d'être avec nous Valérie. Vous avez 45 ans, vous habitez du côté de Cholet. Alors on se demande s'il y aura un avant ou un après cette crise sanitaire. Il y a évidemment des choses que l'on va retrouver assez facilement et d'autres qui seront peut-être un petit peu plus longues finalement à acquérir. Quel est votre point de vue sur la question?
Je pense que du coup, maintenant on est dans un... dans un moment difficile, et c'est là qu'on a pu voir un peu ce qu'on a perdu, cette précieuse liberté comme vous disiez.
Ouais.
Donc c'est sûr que là maintenant on est dans la crise, il faut faire avec. Mm-hmm. Et puis avec les masques, avec le gel, les distanciations, genre de choses.
Alors justement, vous parlez par exemple du gel, vous parlez de l'hygiène. Hein. C'est vrai, oui, qu'on n'a jamais été aussi hygiéniste que depuis un an. Est-ce que vous avez le sentiment que ça, ce sont des habitudes qui se sont ancrées pour un sacré bout de temps?
Moi, je pense que oui, qu'on va vraiment avoir ce genre de choses longtemps, longtemps. Mm-hmm. Et est-ce que c'est pas justement ce qu'il nous fallait, malheureusement, l'un dans l'autre? Mm-hmm. Donc, ça éviterait peut-être les petits rhumes de la saison d'hiver,
les contaminations, les diverses,
les grippes de saison. Mm-hmm. Moi, je trouve, personnellement, j'ai pas trop entendu parler que la gastro était plus revenue ou moins revenue. Bon, après, est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas.
Ouais.
Bon, il y a eu le confinement. Donc, c'est vrai que ça peut aussi aider de ne plus passer tous ces petits virus-là. Mais en ce qui concerne la Covid, oui, effectivement, ça va laisser vraiment des traces. Mmh. Pour quelque temps encore.
Dites-moi, je pensais à ça ce week-end et je me disais qu'en fait, le masque ferait toujours partie de notre vie à l'avenir. Mmh. Si on n'est pas obligé de le porter tout le temps, peut-être qu'on aura ce réflexe de le porter lorsque l'on est malade. Ou en tout cas, on aura toujours une boîte de masque à la maison. Vous vous êtes fait cette réflexion-là? Parce qu'auparavant, on n'y pensait pas.
Ah bah c'est sûr. Mmh. La boîte, elle sera toujours là. Avec, d'ailleurs, on a mis le gel hydroalcoolique.
Mais, c'est vrai.
C'est sûr que ça fera toujours partie des petites affaires à penser, à écrire sur la liste des courses, justement, pour être sûr d'en avoir toujours à portée de main. Mm. Et du reste, si on est contraint d'aller au travail en étant malade ou même aller faire ses courses, justement, est-ce qu'on les aura pas à nouveau avec nous automatiquement?
Oui,
ça serait une bonne question, justement.
Eh bien, c'est la question qu'on se pose justement avec
voilà.
Vous aujourd'hui. Donc, si vous allez conserver, selon vous, des habitudes d'hygiène, est-ce que vous vous interrogez sur votre relation à l'autre? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez sur les relations interpersonnelles? On en est privé depuis maintenant plus d'un an. Mm-hmm. Est-ce que vous vous interrogez là-dessus? Parce qu'on reçoit beaucoup de messages comme celui de Paul. Perso, je garderai le masque et le gel hydroalcoolique pour l'hygiène. Pour les personnes qui ne sont pas de ma famille, plus de bises et plus de poignées de main. Vous vous interrogez sur ces gestes-là aussi?
C'est vrai qu'on peut s'interroger de comment est-ce qu'on va réagir quand on sortira de cette crise. Bon, il va falloir se donner du temps, je pense. Mm-hmm. Mais après, moi, je pense que ça dépend des gens. Il y en a qui ont besoin d'étreindre, d'autres qui ne sont pas du tout dans le toucher. Bon, moi, perso, j'aime bien, en discutant, faire une petite accolade à la personne qui est à côté de moi. C'est très, très vite fait. Et c'est vrai que là, ben, on a du mal à se retenir, mais l'envie est là. Et puis le masque, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, étant malentendante, je trouve ça très, très difficile. Personnellement, j'aimerais bien qu'on s'en défasse, mais bon.
Ouais, je comprends, parce qu'effectivement, c'est une difficulté de communication supplémentaire pour ceux qui, comme vous, n'entendent pas très bien. En même temps, je parlais avec mon invité que je vais vous présenter dans un instant, Stéphanie Gendron, et je lui demandais à Stéphanie, voilà, est-ce que vous pensez qu'après, quand on aura le feu vert et qu'on pourra tous se retrouver et qu'on pourra vibrer ensemble, je parlais de grands événements, aller à un concert ou aller à une pièce de théâtre ou au cinéma, le fait de pouvoir se retrouver pour dîner, est-ce que vous ne pensez pas, à l'instar de l'après-premier confinement, le premier déconfinement, qu'on va reprendre notre vie en oubliant finalement pas mal de choses parce qu'on sera porté par une soif de vivre?
Il y a des chances, hein, je pense vraiment. Ouais. On a tellement envie de revenir dans la vie d'avant, j'ose dire. C'est vraiment, c'est ça, c'est de faire un gros bond en arrière et faire comme si de rien n'était, mais ça va être compliqué quand même. Même si on aura le droit d'aller au restaurant, au cinéma, comme vous disiez, au concert, les pièces de théâtre, il y aura toujours cette petite barrière qui sera là, je pense. Pendant qu'on n'a pas le feu vert total du gouvernement.
Alors oui, on a tendance à le penser, mais est-ce que ça va être le cas dans la réalité? Quand on a déconfiné la première fois, c'est vrai qu'on a tous, peut-être à un moment donné, oublié très vite ce qui nous avait fait mal pendant tant de temps. On va se retrouver dans un instant avec vous, Valérie. Je vais vous présenter nos invités qui, bien évidemment, ont des choses à nous dire. Stéphanie Gendron, elle a mené une enquête pour l'Express, un hors-série justement sur la vie d'avant, la vie peut-être d'après. On en parlera dans un instant, ainsi que Jean Viard, qui est sociologue. À tout de suite sur RTL.
RTL,
Flavie Flamand. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Une fois la crise sanitaire enfin derrière nous, notre quotidien va-t-il redevenir le même qu'avant? Qu'allons-nous conserver? Qu'allons-nous rejeter? Qu'allons-nous oublier peut-être aussi? On en parle avec vous jusqu'à 15h30. On vient d'entendre le témoignage de Valérie qui nous expliquait à quel point effectivement les gestes d'hygiène, selon elle, vont s'inscrire dans notre vie et à quel point le masque va devenir finalement un objet peut-être pas simplement de notre vie quotidienne mais auquel on fera appel si on est atteint d'un rhume, si on sent que l'on peut effectivement contaminer notre prochain. Et puis ce masque qui partira peut-être toujours en vacances avec nous dans un petit coin d'une trousse de toilette en se disant on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nos invités aujourd'hui jusqu'à 15h30 sont Stéphanie Gendron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation, Stéphanie Gendron. Merci. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de l'Express en charge des hors-série donc que j'ai sous les yeux avec toute une enquête que vous avez menée, notamment des baromètres et des chiffres qui vont nous éclairer. Jean Viard, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes sociologue, Jean Viard, directeur des éditions de l'Aube et directeur de recherche au CNRS. Valérie, vous êtes toujours en ligne avec nous. Donc vous nous avez parlé effectivement de ces gestes barrières qui nous mettent à distance les uns des autres. Ces gestes barrières, Stéphanie Gendron, et ce rapport à l'hygiène, a-t-il modifié beaucoup de choses pour l'avenir ?
Oui, c'est certain. Enfin, on s'aperçoit déjà que pendant le confinement, il y a une recrudescence au-delà du gel hydroalcoolique, mais de vente de cosmétiques et de produits à faire soi-même, des produits lavants, etc. C'est quelque chose qui a continué. Alors, il y a cette notion d'hygiène, mais aussi de se faire plaisir et de prendre soin de soi.
Mmh.
Un peu lié sur cette partie cosmétique. Et puis, il est certain que les gestes de prendre du gel hydroalcoolique avant d'entrer dans un magasin ou autre va pour l'instant encore continuer tant que tout le monde n'est pas vacciné et que la pandémie est là, de même que le masque. Je pense que dans les transports en commun, en tout cas, le masque va rester encore pendant quelques temps.
Jean Viard, est-ce qu'on a pris de nouvelles habitudes? Est-ce que notre vie va être marquée définitivement justement par la Covid d'un point de vue de l'hygiène?
Ben, tout va pas changer, on réinvente pas le monde, et j'espère que les gens vont se remettre à laver les dents parce qu'ils ont arrêté grâce au masque. Donc j'espère qu'ils vont pas garder
cette
habitude-là.
C'est pas vrai ? On se lave plus les dents ?
Ben oui, il y a baissé de façon extraordinaire.
Ah, mais c'est
pour ça que je dis, faisons attention, il n'y a pas que des bienfaits avec le masque. Mais une fois que je dis ça, si vous voulez, je pense qu'il y a des choses qu'on va garder. Rappelez-vous, quand on voyait un Japonais ou un Chinois, par exemple, au Louvre, avec un masque, on se disait, non mais qu'est-ce qu'il a peur de nous, on était presque un peu agressifs, si vous voulez.
C'est vrai.
Et au fond, en Asie, c'est assez banal parce que ils sont très nombreux, parce qu'ils sont habitués aux pandémies. Et d'ailleurs, les pandémies viennent presque toujours d'Asie, il faut pas l'oublier quand même.
Mm-hmm.
Ils nous font ce cadeau à l'humanité depuis plus de 1000 ans. Donc vous voyez, c'est pour dire que il est possible que ça ne soit pas ridicule de porter un masque plus tard. Donc c'est des choses comme ça. Les baisers, ils avaient beaucoup augmenté. Moi, quand j'étais jeune, excusez-moi, les garçons ne s'embrassaient pas.
Mm-hmm.
Dans la dernière période, même des hommes de mon âge s'embrassaient très facilement. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a des codes sociaux qui évoluent. Là, on a été traumatisés, on a été marqués. Je pense qu'on va garder quelques-unes des habitudes, pas d'autres. Il faudra voir au fil du temps. Mais bien sûr que ça a marqué nos coutumes, nos mœurs, nos façons de nous regarder, etc.
Alors, on va développer ça, hein, évidemment, jusqu'à 15h30. Il y a Denis qui nous dit « La bise ou la poignée demain ne seront plus une obligation » et qui semble s'en réjouir. Et Laurent qui dit « Moi, j'ai hâte de pouvoir embrasser, de serrer des mains, saluer mes proches et moins proches comme de coutume. » Est-ce qu'on a remarqué vraiment aujourd'hui dans votre étude et dans ce hors-série de l'Express à quel point la tendresse, le tactile avait manqué aux Français ?
Alors, on n'a pas de chiffres précis sur cela. Après, ce qui ressort surtout, c'est que ce besoin de s'étreindre ou de s'embrasser ou autre risque de davantage continuer dans les familles, entre proches, etc. Après, l'histoire de la poignée de main, effectivement, même si dans des rendez-vous très formels et professionnels, on a tendance à tendre la main, on s'aperçoit vite qu'on ne peut pas le faire. Donc, je pense que ça va dépendre vraiment des situations et puis des personnes. J'ai des amis qui sont ravis de ne plus embrasser.
C'est ça.
Donc, voilà, je pense qu'il va y avoir comme deux poids, deux mesures par rapport à cela. C'est difficile encore à mesurer, je trouve.
On va en parler avec Reynalda qui va nous rejoindre dans un instant. Vous, Valérie, justement, est-ce que vous avez hâte quand même de pouvoir, vous le disiez il y a un instant, j'aime le contact quand même tactile. Est-ce que ça fait partie de vos premières impatiences ?
Mais bien sûr, il n'y a pas photo.
Oui, c'est ça. C'est, je pense que fait partie des obsessions de certains d'entre nous. C'est ce qu'on disait, hein. On a réservé parfois la tendresse à nos proches et nos familles, parce que sinon on n'aurait pas pu supporter tout ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'après, peut-être effectivement qu'on va reprendre progressivement ces gestes qui vont nous rapprocher, je dirais aussi, les uns des autres. Valérie, je vous remercie d'avoir été avec nous. On vous souhaite
plaisir.
Un après-Covid le plus heureux possible, le plus serein possible. Et puis de toute façon, on se tiendra au courant. Merci à vous. Dans un instant, c'est Reynalda qui va intervenir sur cette antenne. A tout de suite.
RTL. On est fait pour s'entendre.
Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, quelles sont les habitudes que l'on a prises, que l'on conservera justement prises pendant cette crise sanitaire ? Quelles sont celles que l'on abandonnera ? On en parle aujourd'hui avec nos invités que sont Stéphanie Gendron et Jean Viard qui est sociologue et Stéphanie donc qui est directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Marie-Claire sur Facebook, je pense que les gens vont plus vite reprendre leurs habitudes, bonnes ou mauvaises. Pour ma part, je n'ai pas peur et je reprendrai mes habitudes d'avant, ni plus ni moins. Est-ce que c'est une illusion, Jean Viard, de penser qu'on va reprendre notre vie telle qu'on l'a laissée en mars 2020 ?
Mais beaucoup de choses vont être pareilles. Hein. Je veux dire, bien sûr, parce que l'essentiel des éléments, vous habitez, avec qui, etc. Pour la plupart des gens, ça ne va pas changer. Bon, il y a à peu près 10% des gens qui disent qu'ils veulent changer de vie. Mm-hmm. Changer de vie, ça peut être changer sous la couette, déménager, changer de boulot. Moi, je crois que dans des tragédies comme ça, chacun se demande un peu quel est le sens de ce qu'il fait. Et au fond, on réévalue, si vous voulez, c'est un peu comme quand on revient de vacances, mais en beaucoup plus puissant. On réévalue sa vie, et il y a beaucoup de gens qui vont essayer de la changer. C'est un peu comme quand vous êtes malade, vous êtes guéri, bon, vous revenez un peu au réel. Donc, il y a ça. Et puis, une deuxième chose, si vous voulez, pour l'instant, on est dans la contingence, c'est-à-dire on vit le vaccin, etc. Bon, la maladie, la peur de la mort, les décès et tout, bon, et c'est très important. Mais après, on va vivre la période historique, c'est-à-dire que dans 2-3 ans, on va parler de la grande pandémie où il y a 5 milliards d'êtres qui se sont confinés, où on a sauvé 20, 30, 50 millions de personnes âgées et de malades. Donc, où on a fait un acte historique gigantesque, peut-être un peu, on pourra dire, irréfléchi, on va en discuter. Est-ce que ça valait le coup, finalement, pour sauver les plus fragiles, de casser l'économie famille, etc. Mais vous voyez, donc le récit historique planétaire va prendre un poids énorme. Donc il va modifier nos comportements aussi. Mais celui-là, il faut le laisser venir. Si je dis, je compare souvent avec la résistance, si vous voulez. Après la guerre, au fond, il y a eu 2 millions de résistants actifs, beaucoup qui les soutenaient avec affection mais prudence, et puis beaucoup de traîtres et de collaborateurs. Au fond, on a gardé le souvenir de la résistance parce qu'on en a fait le récit du gaullisme. Donc quel récit on va faire, ça modifiera nos modes de vie.
Très bien. Il y a Reynolda, oh, décidément, pardon. Vous jouez au foot ou pas?
Du tout.
Soyez la bienvenue sur RTL, Reynolda. Merci. Pardonnez-moi. Bon, on s'interroge. Alors, c'est sûr, vous avez raison, Jean Viard. On se rendra compte très certainement plus tard en quoi notre société a été modifiée. Maintenant, notre vie quotidienne l'est forcément. Et on s'interroge parce que on est à 10 jours d'un retour très progressif à la normale. En tout cas, on l'espère. On espère qu'il y aura pas, on ne fera pas encore machine arrière. Mais néanmoins, on s'interroge et on se demande ce que l'on conservera ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Reynolda?
Pour ma part, je garderai le masque c'est souvent, fou. Je pense.
Est-ce que vous l'oubliez? Tiens, moi, je l'ai oublié ce week-end. Et je suis sortie chez moi, j'étais dans la rue, j'avais l'impression d'être à poil.
Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'étais dans une grande enseigne. On était à l'air libre.
Ouais.
Et je suis sortie de la voiture pour charger la voiture, justement, dans cette enseigne. Et j'ai oublié mon masque. Et je me suis sentie... j'ai senti comme si j'insultais les gens qui étaient autour de moi, en fait.
Je comprends.
Je me suis sentie irrespectueuse. Oui, c'est ça, fautive. C'est ça.
Est-ce qu'on vous l'a fait comprendre?
Ah, il y a un monsieur qui m'a dit, vous avez oublié quelque chose. Très gentiment, il me l'a dit, mais je me suis sentie très mal. Immédiatement, je l'ai mis, mais pour le coup, les gens à côté de moi, j'ai réagi d'une façon tellement sympathique que les gens ont souri autour de moi, mais n'empêche que je crois que c'est la seule fois que ça va m'arriver, quoi.
Oui, oui, mais c'est, en même temps, est-ce qu'on en parlait avec vous, hein, Stéphanie Gendron, on a presque peur que ces comportements, moi ça m'est arrivé 2 fois dernièrement, alors que je pense être quelqu'un de concerné, de raisonnable et que je n'ai absolument pas une position anti-masque, j'ai quand même eu le sentiment d'un relâchement de ma part, de me dire tiens, c'est tellement, ça s'est inscrit dans notre vie quotidienne, comme on peut oublier nos clés, on va oublier notre masque. Est-ce que c'est le signe d'un relâchement?
Je ne sais pas si c'est le signe d'un relâchement, mais c'est vrai que quand on est chez soi, etc., qu'on oublie, donc on sort comme avant.
Naturellement, ouais.
Maintenant, une fois qu'on l'a sur le nez, j'ai envie de dire,
on se sent normal.
On le garde et parfois on oublie même qu'on a le masque. Donc c'est un peu ambigu aussi à ce niveau-là, mais c'est vrai que. On peut avoir tendance de plus en plus à l'oublier.
On est dans une société de la vigilance, non, vous ne trouvez pas, Reynolda? Vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, ne pas oublier, faire attention. Est-ce que vous pensez qu'on va oublier cette méfiance?
Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés avec cette pandémie. Il y a des gens qui sont devenus claustrophobes. Il y a des gens qui sont devenus agoraphobes. Il y a des gens, quand ils nous voient y arriver, de suite, ils se mettent sur le côté. Hein. Donc, je pense qu'il y a 2 groupes. Je dirais, il y a 3 groupes. Il y a ceux qui seront traumatisés et qui vont se méfier des gens. Il y a ceux qui vont très, très vite revenir à la normale. Et puis, il y a ceux qui auront un juste équilibre, je pense, entre les deux. Et je pense qu'on saura beaucoup avoir le juste équilibre entre les deux.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Viard?
Je ne sais pas. Je pense que madame a en grande partie raison. Vous savez, il y a 23% des gens qui sont déclarés dépressifs. C'est énorme, quoi. Donc, le traumatisme est énorme. Et j'insisterai sur le traumatisme chez les enfants, si vous voulez. Parce qu'ils ont entendu parler de la mort tous les jours. On a beaucoup regardé les infos continues dans les maisons. Donc, des enfants de 5, 7, 6, 7 ans, d'habitude, la mort, on leur en parle pas. On hésite même à les emmener aux enterrements.
C'est tabou.
Là, vous me direz que... On les a pas emmenés aux enterrements puisqu'on pouvait pas, mais voyez, je pense que les traumatismes sont pas forcément là où on le croit. Et moi, je crois que notamment chez la petite enfance, il y a un énorme travail à faire pour leur redonner le sens de la vie, d'aller vers l'autre. On leur a dit, saute pas dans les bras de tes grands-parents, les embrasse pas. Je veux dire, ça nous a marqué, quoi. Nous, on est adultes. Alors, on reviendra peut-être à des comportements qu'on aimait avant, et puis on en profitera un peu aussi. Avant, les dames étaient un peu obligées d'embrasser les messieurs dans les réunions. Peut-être qu'elles vont se dire, après tout, on me demandait pas trop mon avis, vous voyez. des comportements classiques de réunion, plus ou moins copains, tout ça. Mais les enfants, moi, ils me préoccupent beaucoup.
Alors, on parlera de cette préoccupation juste après les informations, justement, avec Hortense Crépin qui vient d'arriver. Merci beaucoup, Reynolda. J'espère qu'on aura l'occasion de parler encore sur cette antenne. Et j'ai appris qu'effectivement, vous aviez envie d'embrasser carrément les gens. Ceux qui vous sont proches, on a envie d'un retour à l'effusion pour certains d'entre nous. Et je vous rejoins carrément. Je vous embrasse, Reynolda, puisque j'ai le droit de le faire à la radio. À bientôt.
Oui.
Place à l'info sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Allez, on poursuit notre conversation aujourd'hui suite à la parution de l'Express, le hors-série de l'Express Covid, donc le Covid maintenant, sans majuscule. On l'aura appris grâce au Robert et Hortense Crépin. Voilà, exactement, au dictionnaire le Robert et donc à Hortense Crépin. Donc le Covid sans majuscule, la vie avant, la vie après, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va rejeter, qu'est-ce qu'on oubliera aussi peut-être, parce que c'est bien naturel d'oublier. Jean Viard est notre invité, il est sociologue en compagnie donc de Stéphanie Gendron, qui est directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Bonjour Mara.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL Mara, merci d'être avec nous. Ah mais dis donc, il y en a eu des changements vous depuis un an?
Oui,
puisqu'on s'interroge justement, et qu'est-ce qu'on retient de cette période. Vous avez carrément changé de vie, je dirais.
Ben, on a quitté avec mon mari la ville pour la campagne.
À quel moment?
Alors, on a pris la décision en plein confinement de l'an dernier, donc avril 2020. Mmh. Et on a commencé vraiment à chercher aux alentours de juillet 2020. On a trouvé très vite quelque chose qui nous plaisait. Et bon, bien sûr, ce qui a pris du temps après, ben, c'est toutes les étapes notariales, etc., etc., la banque, et puis voilà, à partir de décembre, on a emménagé. Donc ça, voilà, ça fait 6 mois maintenant qu'on est à la campagne.
Qu'est-ce qui était si difficile et qui vous est apparu absolument insupportable en ville?
À partir du moment où on enlève toute l'offre culturelle et de loisirs, et ben, on se rend compte qu'il y a finalement peu de moyens de respirer et de s'ouvrir un peu l'horizon. Alors, bien sûr, c'est des choses, on sait que ça reviendra dans le futur, mais il y avait quand même une conscience que ça serait vraiment pas tout de suite. Et donc voilà, c'était l'occasion de partir et de voir comment ça allait se passer. Et bon, le fait est que voilà, au bout de 6 mois, on sait qu'on a fait le bon choix et on reviendra pas en arrière.
Pour vous, la vie est plus facile là où vous êtes désormais? Et vous envisagez l'avenir désormais à la campagne?
Ah oui, complètement. Bon, après, ça reste maîtrisé parce qu'on reste quand même à 25 km de Toulouse.
Mais vous êtes dans un tout petit village maintenant.
Ouais, on est passé à un village qui... La commune fait 3000 habitants à peu près. Donc on est quand même... C'est bien sûr à taille plus réduite et plus humaine, mais on s'est rendu compte aussi que ça donnait beaucoup de possibilités, ne serait-ce que... Quand on veut faire vivre un tissu associatif, ben c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à la mairie, aux collectivités locales. Le tissu social n'est pas du tout le même, quoi.
C'est-à-dire?
Comment dire? Si par exemple vous voulez monter une assoce ou vous voulez faire une proposition pour un événement, dans une grande ville, vous allez devoir passer par un sous-fifre qui va demander au sous-fifre du dessus, et vous n'êtes pas sûr d'arriver à ce que vous voulez. Sur de plus petites structures, vous arrivez plus vite à la personne qui est responsable, donc ça facilite beaucoup de choses. Mmh. Le réseau se fait très différemment, et forcément, comme les offres sont plus réduite, et ben vous avez plus de chances de pouvoir proposer des choses qui vont être accueillies avec souvent plus d'enthousiasme parce que l'implication est valorisée, quoi.
Jean Viard, est-ce que effectivement cette crise sanitaire, tout ce que l'on a vécu, sera suivi? On voit que le mouvement est déjà en marche, hein, d'ailleurs, une forme de migration vers la campagne.
Moi, je pense que oui. Alors, le mouvement était déjà là, hein, oui, puisque Paris avait déjà perdu 59 000 habitants ces dernières années. C'est-à-dire, si vous voulez, au fond, les grandes métropoles, c'est là où se crée l'essentiel de la richesse, de l'innovation, etc. C'est des grands lieux de culture et de liens. Si vous voulez, la métropole, au fond, c'est quand la toile croise la décision, on pourrait dire. Hein. Oui. À la fois la toile qui est dense, et puis il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de politiques, etc. Donc, ça crée de la richesse, ça aide l'innovation. Mais au fond, pour y vivre, surtout quand on a des enfants, ben, on s'était déjà rendu compte, et les gens des villes, des grandes villes désiraient partir. Là, il y en a qui l'ont fait. Il y a quand même 450 000 Parisiens qui ont quitté Paris pendant le premier confinement. Alors, beaucoup sont revenus. Hein. Ils sont allés dans leur famille, dans leur résidence secondaire. Mais il y en a, à mon avis, des quelques dizaines de milliers qui, effectivement, vont changer de vie, y compris pour aller à la campagne, souvent lié aussi au fait d'avoir des enfants. Parce que c'est vrai qu'à Paris, en gros, avec un 40 mètres carrés à Paris, vous avez 150 mètres carrés et un grand jardin ailleurs, quoi. Mmh, donc, vous avez une qualité de logement. Et puis, il y a ce que dit madame, c'est-à-dire que l'ancien maire de Dumont disait souvent, si vous êtes 3000 dans un grand ensemble, avec un peu de chance, vous avez un concierge. Si vous êtes 3000 dans une commune, vous avez un conseil municipal et même peut-être un conseiller général. Et donc, au fond, vous êtes beaucoup plus structuré en lien politique et social. Et c'est clair qu'en fait, c'est la ville qui est en pénurie de liens, si vous voulez.
C'est vrai.
Et c'est ça qu'on voit et qu'on ressent, et les gens le ressentent. N'oubliez pas que c'est venu après la crise des Gilets jaunes. Donc, on avait aussi cette crise du lien, puisque les Gilets jaunes, c'est une espèce de désespoir de l'abandon, on va dire, dans le grand périurbain pour aller vite. Ils vont pas au même endroit, les gens. Ils vont pas, il y en a qui vont dans le lotissement périurbain, mais beaucoup vont comme madame dans une commune plus petite où on est dans, mais à pas loin de la ville, à moins d'une heure de la ville. En fait, on est dans une petite commune juste à côté de la ville. Je crois que c'est un peu ça le modèle quand même.
Et c'est ce qui se profile effectivement, en tout cas on le voit à travers Mara. Mara, vous restez avec nous, on reparle de ce sujet-là avec vous Stéphanie Gendron dans un instant et on abordera aussi le sujet du télétravail. Beaucoup de messages dans ce sens, à tout de suite.
RTL,
on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Alors Mara, elle a décidé de quitter la ville pour s'installer dans un petit village donc de 2600 habitants. Jean Viard nous a expliqué, Stéphanie Gendron, à quel point effectivement on notait en tout cas aujourd'hui un appel du vert et d'une vie très certainement beaucoup plus simple, où les rapports sociaux, comme nous le disait aussi Mara, sont différents. C'est ce que vous avez noté, vous, dans votre enquête de l'Express ?
Oui, effectivement, en fait, on s'aperçoit qu'avec la pandémie, il y a près d'un tiers des habitants des grandes villes qu'envisage de déménager.
Ouais.
Bien sûr,
c'est énorme,
exacerbé
hein.
En Île-de-France où carrément là, le nombre de candidats au départ dans les années à venir a bondi de 42% et quasiment 70% d'entre eux ont déjà entamé leur projet en fait de déménagement, et on s'aperçoit que c'est principalement pour des villes moyennes, pas forcément totalement la campagne, mais pour des villes moyennes qui sont aussi accueillantes d'un point de vue familial.
Est-ce qu'il y a un palmarès des villes là en ce moment ou pas ?
Alors, il y a plusieurs palmarès, donc c'est pas évident. On sait que Rennes, Dijon est la troisième, m'échappe. Je l'ai sous les yeux, je vais vous dire ça tout de suite. Et Nantes, qui sont assez prisées. Donc on a Strasbourg également qui progresse, et Lyon. Alors c'est pas une ville moyenne, mais qui est en bonne position également.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il y aura un boom aussi de l'immobilier dans ces villes et dans ces régions-là.
Il y a un risque, sachant que les prix, en tout cas à Paris, sont en train de plus stagner pour le coup.
Stagner. Alors, on a des messages sur le télétravail. Mara, ça n'est pas votre cas. Vous travaillez, vous, à domicile ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Est-ce que par exemple, justement, vous qui travaillez chez vous, est-ce que vous comprenez que certains aient une révélation dans le fait de travailler dans un cadre plus privé et à distance des autres ?
Pour certains, ça a été le cas.
Ouais.
Mais je pense que ça nécessite quand même un certain confort parce que forcément, ça, il vous faut une pièce dédiée, il vous faut un fauteuil confortable et qui ne vous casse pas le dos.
C'est une nouvelle façon de travailler.
Voilà, mais je pense que pour certains, qui n'aimaient pas spécialement l'ambiance de la machine à café ou de faire des trajets juste pour aller au travail, ça leur a beaucoup plu. Oui.
Voilà, parce que Yael nous écrit « La crise sanitaire a changé beaucoup de choses de façon durable. Je pense notamment au télétravail. Cette nouvelle façon de travailler me convient parfaitement. J'ai trouvé un réel équilibre avec ma vie personnelle, alors qu'avant, c'était du 9h-21h, 5 jours sur 7. Et aujourd'hui, je profite davantage de ma vie de famille. Je souhaite vivement que tout cela continue quand tout cela sera derrière nous. » Luc, Luc, pour ma part, j'espère retrouver ma vie d'avant car le télétravail, alors là, non merci. Je n'ai pas revu mon bureau et mon équipe depuis décembre. Je n'en peux plus. Nous communiquons par téléphone, mail et Zoom. Mais franchement, ce n'est pas du tout épanouissant. Je dirais même que l'absence de contact réel a quelque chose de déshumanisant et c'est très difficile. Jean Viard, le télétravail, waouh. Alors ça, c'est une véritable révolution.
Oui, mais c'est d'abord une révolution à la tête des patrons.
Oui, oui, tout à fait.
Accepte que on ne voit pas les salariés travailler, pourtant ils travaillent. Parce que les patrons français, ils étaient pour le présentiel, quoi.
Oui.
Ils arrivent le matin, ils voient les salariés, ils sont contents, j'ai des salariés, ils bossent, quoi. Et ça, je crois que c'est ça. Là, il s'est passé vraiment quelque chose de très important. Et de l'autre côté, en plus, comme le télétravail est plus productif, on estime autour de 22%, et que si vous voulez, en télétravail, on ne demande jamais d'heures supplémentaires, et qu'on a moins besoin d'avoir un bureau,
oui.
Vous voyez, ça fait beaucoup d'avantages pour l'entreprise, en fait. Mmh. Donc, voilà. Mais après, je crois qu'il faut dire les choses. Le télétravail, c'est génial si c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que on a besoin de la machine à café, on a besoin de draguer les collègues, on a besoin de chahuter, on a besoin de boire le café. Non, mais excusez-moi,
non, mais
la vie n'est pas... là, on a été confinés par couple légaux, etc. Bon, c'est pas toute la société. Donc, faut garder ce côté un peu obscur du lien social, si vous voulez. Mais après, moi, je pense qu'il y a plein de gens, l'idée de n'aller que 2 jours par semaine au bureau, ou 1 semaine par mois. On estime qu'il y a 60% des gens qui peuvent faire peut-être une journée de télétravail. Mais une journée où vous n'avez pas les trajets, où vous allez chercher vos enfants à l'école, où vous allez rester en jeans, je veux dire, c'est beaucoup, quoi.
En pyjama.
En pyjama, en fait, comme vous voulez, d'ailleurs, je ne ferai aucun... Je n'irai pas plus loin dans la description, mais il y a plein de possibilités. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Ça donne de la souplesse. Vous voyez, des gens qui ne vont pas rentrer le dimanche soir du week-end, mais le mardi matin.
Ouais.
Des gens qui vont partir en vacances, et puis, pendant une semaine au mieux, ils feront du télétravail, comme ça, ils ne vont pas consommer toutes leurs vacances. Vous voyez, on va acquérir des nouvelles souplesses, et surtout, il y a des territoires qui vont se développer, parce qu'il y aura des salariés. Regardez vite comme Tours, vous avez cité déjà quelques villes, comme Dijon, mais Tours, Orléans, on évite qu'on beaucoup gagné d'habitants, parce qu'ils sont à 1 heure de Paris. Mais vous avez la même chose à Draguignan par rapport au sud, sud, si vous voulez. Vous avez... Et ce qui est marrant, c'est que vous avez des gens de Paris, par exemple, qui vont s'installer à Marseille, parce que pour eux, c'est ça, j'allais dire, le lieu des exotiques. C'est vrai, il y a 32 km de côte, enfin, une ambiance complètement différente. Mais vous avez des Marseillais qui, eux, quittent Marseille pour aller s'installer dans la campagne, dans le sud du Luberon, etc. Et vous voyez, vous avez ces mélanges. Chacun, au fond, se raconte l'histoire qu'il a changé sa vie, mais il y en a un autre qui vient prendre d'autres places. Peut-être.
Stéphanie Gendron.
Oui, effectivement, pour revenir à cette notion de souhait de télétravail, on s'aperçoit qu'il y a 86% quand même des personnes qui ont testé le télétravail, qui veulent continuer.
86%,
ce qui est énorme. Après, pas forcément tout le temps. L'idéal pour eux, c'est 2 jours par semaine.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, ce qui redéfinit complètement aussi la notion de bureau en tant que tel et le rôle du bureau qui devient davantage un espace de collaboration et de convivialité. On y va plus pour des réunions ou voir ses collègues plutôt que pour travailler devant son ordinateur. Qui est plus réservé, en tout cas les moments de concentration seront plus réservés pour le télétravail et les moments de sociabilisation se feront au bureau.
Alors qu'auparavant, souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, c'était l'avènement des open space quand même. Donc là, effectivement, ça vient contraindre cette tendance qui date d'avant la crise. Merci beaucoup Mara, on vous souhaite plein de bonnes choses. À vous du côté donc de Toulouse, je vous embrasse et puis à bientôt, j'espère, sur l'antenne d'RT. Nous, on se retrouve tout de suite. On poursuit notre conversation avec Jacques.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Beaucoup de choses vont changer, justement. Stéphanie Gendron, ce que l'on vit aujourd'hui, on le retrouve donc dans l'Express. Ce que l'on vit aujourd'hui a été révélateur de plein de choses dans la vie de beaucoup de Français.
Oui, en fait, certains.
C'était une forme de déclic.
Oui, un vrai déclic ou un signe en tout cas, en se disant que c'était l'occasion de quitter leur emploi ou leur ville ou de s'engager pour une cause qui leur est chère, voire pour certains de quitter leur conjoint ou autre,
mais
en tout cas de changer pour tout simplement pour trouver du sens ou un épanouissement personnel en tout cas tout simplement et de se retrouver soi. Et d'ailleurs, ça a généré davantage de reconversion. On a un actif sur sur 5 aujourd'hui qui est en reconversion, ou qui l'envisage en tout cas, et certains ont déjà, largement entamé cette procédure. On a eu beaucoup de témoignages dans ce hors-série de personnes qui en ont profité aussi pour vraiment changer de travail, mais du tout au tout. On a une trader dans une grande banque qui a tout largué pour acheter une maison d'hôte avec son conjoint dans le sud de la France. On a un couple en fait qui était dans le marketing dans des startups qui gagnaient très bien leur vie et qui avaient un bon job, mais qui ont décidé de tout quitter également pour faire un état des lieux en fait des niveaux de au niveau environnemental, etc. Donc ils ont acheté un van sur une plateforme dont je ne citerai pas le nom, mais voilà, qu'on connaît tous, et puis ils font le tour de la France et le tour de l'Europe pour mesurer tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue environnemental. Donc
ça a suscité des engagements, ça a suscité des changements de vie.
Exactement.
Alors ça, vous nous racontez un peu les belles histoires, dirais.
Effectivement.
Mais néanmoins, comme le soulignait Jean Viard, il est certaines inquiétudes sur des lendemains dont on n'est pas certain. Et c'est Jacques qui partage ce point de vue. Jacques, bonjour. Jacques ? Ah ben on n'a pas Jacques. Bon, c'est pas grave. Jean Viard, effectivement, Jacques allait témoigner sur cette antenne en nous expliquant que effectivement on ne sait pas ce qui va se passer demain. Vous nous parliez des jeunes et des inquiétudes que vous nourrissez auprès des jeunes. Justement, est-ce qu'il en est d'autres ? Est-ce qu'on va voir apparaître, se révéler finalement des problématiques auxquelles on ne peut pas encore véritablement s'attendre aujourd'hui, dont on ne peut pas être certain ?
Le problème des événements historiques, c'est qu'au fond, ils n'existent à partir du récit qu'on construit après.
Oui.
Donc, on ne sait pas encore quel récit on va construire. Prenez les jeunes. On nous a beaucoup dit, effectivement, génération sacrifiée, etc. Moi, ça me fait toujours un peu sursauter parce que, bon, moi, je suis de la génération. Mon père a été engagé en 39, mes deux grands-pères ont fait Verdun. Les étudiants de mon père ont été 18 mois en Algérie. Donc, bon, il faut relativiser. C'est vrai qu'on avait eu 70 ans de paix, tant mieux. Hein. Mmh. Donc, on était moins informés pour affronter. Moi, ce que je trouve, si vous voulez, c'est que le fait que 5 milliards d'hommes cassent au fond leur vie pour sauver les plus anciens et les plus malades, au fond c'est peut-être le plus beau geste humaniste qu'on ait jamais fait dans l'histoire humaine. Jamais on n'avait fait quelque chose d'aussi monumental, peut-être d'aussi absurde, parce qu'on pourra aussi peut-être dire que pour sauver 20 ou 30 millions de personnes âgées qui ruinent la sécu, on a fait au fond, on a cassé, il y aura des suicides, des divorces, etc. On pourra faire un bilan négatif, hein, c'est pas impossible, mais quand même c'est un geste grandiose. Alors ça, si vous voulez, je crois qu'il faut le dire comme ça, parce qu'on dit toujours la société est fracturée, etc. Oui, bien sûr, mais enfin, vous rendez compte qu'on s'est tous confinés d'une façon extraordinaire, et partout, quels que soient les régimes,
ouais,
la dictature chinoise, bon, à part les populistes qui ont été lamentables, parce que déjà qu'ils aiment pas les femmes, là, ils ont pas aimé les gens en général, donc ça a été catastrophique, et les pires c'est les Hongrois. Il faut toujours dire que c'est en Europe qu'il y a eu les pires taux de mortalité, en Hongrie, en Tchécoslovaquie. On regarde beaucoup l'Inde, beaucoup le Brésil, mais attention, les populistes en général ont été mauvais. Mais juste un mot, vous savez, ce qui est frappant, c'est qu'on est entré dans un monde où on va aimer le proche et la livraison. Moi, je crois que c'est ça que je vois. C'est-à-dire, vous voyez, la ville du quart d'heure, le bourg, mais en même temps, la livraison. 20 millions des gens ont acheté sur Amazon. Le télétravail, au fond, c'est de la livraison du travail à domicile. Donc, ce couple, vous voyez, livraison proche, c'est-à-dire amis, réseau de copains, les gens à la sortie du collège, les gens du marché, les gens de la salle de sport, mais aussi les gens du tiers-lieu. Et je crois qu'un des lieux du futur, c'est le tiers-lieu, c'est la maison du peuple numérique, on pourrait dire, pour faire un parallèle, où on va travailler en coworking, où on peut manger, où on peut créer des start-up, où il peut y avoir un ou deux fonctionnaires qui vous font vos impôts, etc., où il y aura des artistes, où il y aura de la musique. Je crois que le tiers-lieu, si on est rapide dans notre réponse, peut devenir un lieu absolument central du lien social de proximité.
Eh bien, je vous remercie, Jean Viard, d'avoir passé cette heure en notre compagnie et de nous avoir éclairé de vos lumières. J'annonce la sortie le 21 mai, dites donc, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, je crois.
Mais tout à fait.
De votre nouveau livre, aux éditions de l'Aube, La Révolution que l'on attendait est arrivé. J'ai hâte d'en prendre connaissance. Merci Jean Viard d'avoir été mon invité aujourd'hui sur RTL et en direct. Stéphanie Gendron, merci beaucoup. Je conseille donc le hors-série de l'Express sur la Covid avant, après. Nouvelle vie, s'adapter ou tout changer, c'est actuellement en kiosque. Merci beaucoup. On apprendra qu'on aura eu un boom du vin de 52%, des commerces de proximité. Exactement. De 91%, des jeux de société et du sexe aussi. de 38%.
Aussi,
voilà, entre autres, évidemment, sur notre vie quotidienne. Merci à vous, en tout cas, Stéphanie
Merci
Gendron.
Beaucoup.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain dès 14h30 en direct sur RTL. D'ici là, prenez grand soin de vous. À demain.